Racham, je veux dire les entrailles maternelles, le ventre maternel, Racham, Rachamim, le ventre maternel divin, c'est me. La miséricorde, c'est l'émotion du ventre maternel de Dieu qui sent l'homme, qui sent l'homme vivre et qui le purifie. Donc, le Yom Kippour, c'est ce jour de la purification, le jour où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints pour prononcer le nom de Dieu. Et quand il sortait, il ne devait plus savoir, il devait avoir oublié quel était le nom de Dieu. Je veux dire, je ne peux pas le retenir, même pas dans ma mémoire, parce que c'est moi ma mémoire. Il faut le laisser partir hein, avec l'ensemble. Et donc, loi de sainteté, soyez saints parce que moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Soyez saints de ma sainteté. Donc la sainteté vous est toujours inaccessible par vous-même. La sainteté est un don. Et c'est ce que vous trouvez à la fin du chapitre 17 à 26 du livre du Lévitique. C'est un peu ce que vous avez dans les pages que vous avez remises à fois passer, page 18. Le Lévitique ne se termine pas sans combiner la perspective qu'on vient d'évoquer, hein, dans la souillure, hein, le pur et l'impur, avec toute une perspective morale. Ah, maintenant, cela nous engage vis-à-vis de Dieu. Le sanctuaire avait été construit. Quel est le sanctuaire? Nous. Nous, la communauté. La communauté est le vrai sanctuaire de la présence de Dieu. Jésus se souviendra de cela. Il parlait du temple de son corps. Donc voilà, dans toute une trajectoire à travers la Bible, qu'est-ce que c'est que le corps? Le corps comme reçu de Dieu, c'est-à-dire du saint, et qui doit être saint. Alors, toutes les lois que vous trouvez dans ce code de sainteté, dans la loi de sainteté, et il n'y en a pas assez parce qu'il y en aura encore beaucoup dans le livre des noms de Jean de Deutéronome, toutes ces lois sont pour nous libérer intérieurement et nous permettre de vivre dans la liberté, cette sainteté de Dieu, qui nous met en communication d'une part avec Dieu et avec sa volonté, avec nous-mêmes, nous sommes dans la joie d'être qui nous sommes, et avec nos frères et nos sœurs, qui sont chaque fois des images de Dieu autres. Donc qui expriment la richesse, l'abondance de cette richesse mystérieuse de Dieu qui est vie. Au cœur du code de sainteté, le Lévitique 19 est marqué par une belle unité formelle, avec la répétition de la formule « C'est moi le Seigneur ». Où est-ce que je suis le Seigneur, sinon en toi? C'est le seul endroit où toi tu puisses vraiment me rencontrer. Quand tu colles bien à ton toi-même, tu colles avec cette présence de Dieu. Elle est en toi. Tout l'effort de notre vie, c'est celui-là. C'est de pouvoir nous approcher, sacrifice, nous approcher doucement de cette ouverture où je peux tout recevoir. À ma manière. Mon frère recevra à sa manière. Ma soeur recevra à sa manière. Au niveau du contenu, par contre, le chapitre apparaît comme un patchwork de prescriptions les plus diverses. Ah, combinant l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? À ton prochain, comme tu t'aimes toi-même, t'aimes à ton prochain comme tu voudrais être aimé, t'aimes à ton prochain comme Dieu t'aime, t'aimes à ton prochain comme Dieu en toi aime ton prochain. Vous voyez, ça peut aller très loin. Jésus reprendra ça dans aimer les uns dans les autres. Comme je vous ai aimé, c'est-à-dire de l'amour dont je vous aime. Jésus n'est pas loin de ce commandement. Il l'exprime à travers sa personne. Donc tout ça, vous le trouvez en même temps. Et les prescriptions qui ont trait aussi au croisement du bétail, et le chapitre en fait cherche le disparate et articule ce qui faisant, ce faisant, l'éthique et le culturel. Le culturel, pardon. Éthique de voir la manière de vivre sa liberté, et le culturel, la manière de vivre sa liberté devant Dieu. La crainte des parents, le respect du vieillard aux cheveux blancs, du sourd, de l'aveugle, de l'immigré, du travailleur, etc. L'attention à l'autre. C'est la manière dont Dieu vit. Dieu aime chacun, chacune, de manière unique. Et le culturel, le sacrifice de paix, les règles d'abattage, de consommation d'aviance, le respect du nom de Dieu, le respect des différences dans l'ordre créé, etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute notre vie est prise par cette présence de Dieu. Et que toute notre vie consiste à laisser Dieu nous construire. Non pas à l'imiter de l'extérieur, mais à le laisser être. Qui est Dieu? Et qui est ma chère être? Je serai ce que je serai. Je serai toujours avec toi. C'est un inaccompli. Il n'y a pas de véritable futur en hébreu biblique en tout cas. Donc voilà où nous en sommes. Le vrai sanctuaire, c'est l'homme. Le vrai sanctuaire, c'est la communauté. Là où je retrouve la présence de Dieu, c'est la communauté dans laquelle on peut vivre la justice, la paix, la communication, la compréhension de l'autre. Hein? Ça devrait être, hein? Le sanctuaire est là. Nous sommes toujours au Sinaï, jusqu'au chapitre 10, nous étions au Sinaï à partir d'ici, jusqu'ici. Vous voyez? Pendant tout ce temps-là, nous sommes au Sinaï. Il faut repartir. Parce que la vie, c'est pas rester au Sinaï. C'est pas rester à la chapelle, non. La vie, c'est dans le courant de l'existence. Fait partie. Et donc il y a un sanctuaire. Et autour du sanctuaire, c'est un peu comme s'il y avait la tente, hein, la tente sainte. Et puis tout autour de la tente sainte, vous avez les prêtres, c'est-à-dire de la famille d'Aaron. Hein. Et puis vous avez les Lévites. Mais il y a trois groupes de Lévites. Et les Lévites se rangent, sont rangés dans le camp, c'est une image symbolique du camp que Ézéchiel va reprendre pour le temple de Jérusalem, la tente sainte, la présence de Dieu. Alors, les prêtres et les Lévites se groupent tout autour, et puis vous avez les Judas, Ephraïm, et puis vous avez Dan. Et là, je crois que c'est Ruben. Hein. Et les différentes tribus se groupent. Voilà, tout autour. C'est un petit peu le peuple autour de son sanctuaire. Le village ramassé autour de l'église. Voilà, ça c'est l'image type que vous avez ici au départ du livre des Noms. Et c'est ça qui va marcher. C'est ça qui va quoi? Après traverser le désert. Ah ben voilà. On retraverse le désert. On avait déjà traversé le désert, hein, comme préparation, ici. Il y avait un désert. Et le désert était plein d'embûches, hein. Nous disons tentation. Eh bien, nous allons traverser le désert. Il va être plein d'embûches. Oh! La vie n'a pas changé. Oh, c'était si merveilleux. Hein? Dans le Lévitique, qu'on vivait tout près de Dieu. C'est merveilleux. Et oui, la vie reste ce qu'elle est. Hein? J'avais fait une excellente retraite. Magnifique. J'étais dans le 36e siècle.
Fait retomber.
Atterrissage difficile. Et bien c'est ça. Donc on va maintenant, avec tout cela, on va vivre l'après Sinaï. Il y avait un avant Sinaï, il y avait un après Sinaï. L'avant Sinaï était plein de déserts, hein, de tentations dans le désert. Ben, les tentations dans le désert, c'est toujours les mêmes. Hein. On n'a pas à manger, on n'a pas à boire. Eh bien, Dieu donne à manger et à boire. Oui, mais Dieu ne donne pas à manger et à boire, alors qu'est-ce que c'est ? On n'a pas ce qu'on voudrait quand on voudrait. Voilà, 10e difficulté. Et les oignons d'Égypte, c'était là tout le temps. Le Nil arrosait tout et le soleil au-dessus. C'était vraiment la vie merveilleuse. Non, la vie merveilleuse, c'est la vie du désert. C'est la vie dans laquelle on vit la présence de Dieu au milieu des tentations. Et donc, ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé là, juste après la réception du décalogue, le veau d'or, juste après la présence de Dieu, hein, le feu étranger, et bien maintenant, les péchés originels ne vont cesser de se succéder. Heureuse faute, hein, disons-nous dans la prière pascale. Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Heureuse faute qui nous fait découvrir notre faiblesse, nos limites, nos pauvretés, notre mauvaise volonté. Donc, le désert, avec ses tentations, et ça va venir deux fois, c'est le bonheur des limites, ou le bonheur des obstacles, qui nous font chaque fois sauter. Oh, nous n'arrivons pas toujours à sauter. Alors vous voyez, la problématique ici, c'est de passer, dans le concret de la réalité, de passer de ce que nous appelons la culpabilité au péché. La culpabilité, c'est toujours le sentiment propre, moi, le sentiment de n'avoir pas fait ce que je devais faire, ce que j'aurais voulu faire, ce que je me mettais comme idéal, je n'ai pas fait. Alors, j'ai honte, mais cette honte, c'est vis-à-vis de moi-même. Ça, c'est la culpabilité qui enferme, qui ne rend pas libre du tout. Et il faut passer de la culpabilité, c'est-à-dire ce sentiment-là, qui est souvent un sentiment psychologique, qui peut être bon, du moment qu'il soit passager, hein. Culpabilité au sens du péché. J'ai la grâce de pouvoir pécher. C'est une grâce étonnante. Parce que le péché, c'est le rapport personnel avec Dieu. Bon, on a ses vues, hein. Mais à travers tout, toute la réalité, mais un rapport personnel. C'est une grâce de pouvoir pécher. C'est-à-dire c'est une grâce de pouvoir comprendre que je ne suis pas en face de moi-même, que je suis en face de quelqu'un qui m'aime et que je n'ose pas aimer. Je n'arrive pas à aimer. Et donc, il doit encore faire cet effort en moi, Dieu, hein, de m'apprendre à aimer. Là, ça vient les obstacles concrets. Et ça, c'est tout le chemin du livre des nombres. Quand vous lisez les livres des nombres, je ne sais pas si vous l'avez lu, d'un bout à l'autre, il faut le faire deux, trois fois comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans tout ça? C'est un mélange extraordinaire. Un mélange fou parce que vous trouvez des lois pour tout. Des lois pour tout. Des lois qui ne se trouvaient pas plus tôt. Il y a la répétition de celles qui se trouvaient déjà plus tôt. Et puis quelques petits. Petites anecdotes comme ça, généralement légendaires. Et au fond, il nous trace à travers le livre des nombres il nous trace le chemin de nos vies. C'est plein de lois, c'est plein de choses à faire, à ne pas faire, etc. Hein, c'est notre vie de tous les jours, transposée évidemment, non plus à l'époque qu'il ne l'est. Car le livre des nombres reprend des lois qui ne sont plus du tout des lois du désert, qui sont des lois qui sont venues progressivement s'ajouter les unes aux autres. Et qui date pratiquement de l'époque des rois, de l'époque royale, et même un certain nombre après l'exil. Mais on vous met tout ça là, comme un gros paquet. C'est toute une déontologie progressive d'Israël. Important, cela. Ça veut dire que les lois, même les meilleures, les plus profondes, ne sont jamais faites une fois pour toutes. Il faut constamment réviser. Réviser à partir des situations dans lesquelles on se trouve. Alors, on va se retrouver pratiquement dans les mêmes situations qu'autrefois. Il y a des doublés dans le désert. On n'avait pas d'eau. On n'avait pas à manger. Eh bien, Moïse a donné de l'eau, a donné des cailles, le Paul s'est donné de cailles à manger, donc de la viande à manger, et la manne. Boum, la manne, on en a assez, hein. Ouais, ça a toujours le même goût. Et on n'est pas content, hein. On pense que ça ira mieux. Et dans le désert, c'est toujours la même chose. Ça change, ça peut changer, l'emballage peut changer, hein. Mais le contenu elle-même. Donc c'est vraiment la vie de tous les jours, avec cette présence du Seigneur, cette présence du Seigneur que l'on maudit tout le temps. On murmurait avant, que nous avons fait entrer dans le désert, on murmure après. C'est là que vous allez trouver par exemple les serpents. Un serpent venimeux qui tout d'un coup vous pique. Et alors, Moïse est toujours le médiateur, il fait toujours le va-et-vient. Faut faire avec ces serpents. Et ça va nous faire périr tous. Et je dis, mettez un poteau et avec un serpent derrière, là. Et vous allez regarder le serpent, et celui qui regardera, eh bien, il ne mourra pas. Manière de dire, mais ne regardez pas vos talons qui sont piqués, hein. Ça c'est une réalité humaine. Mais regardez un peu cette présence du Seigneur qui vous sauve. Difficile, hein? Eh bien voilà, c'est ce que vous avez dans les pages 19 et 20 que vous avez ici. Départ du peuple d'Israël. Mais ce départ n'est raconté que au chapitre 10 du livre des Nombres. On reste 9 chapitres à faire du surplace. Ah oui, pour vous indiquer le recensement du peuple. On fait un recensement du peuple pour savoir qui va marcher. Car Israël qui doit marcher, mais c'est un peu comme une armée. C'est décrit comme une armée qui prend position dans un camp, bien déterminé, un peu comme les camps romains qui étaient bien, hein, toujours la même forme. On va marcher. Donc il faut savoir quels sont les gens de 20 ans et plus qui peuvent marcher et qui peuvent éventuellement combattre. Et vous comprenez bien que le combat, qui va être bien sûr le combat contre Amalek, qui va revenir en force à Amalek. Et celui qui veut la suppression d'Israël, effacer Israël de la carte. Hein? Bon. Là, il va y avoir encore Amalek, il va y avoir les Cananéens, il va y avoir les Amorites, il va y avoir les gens de Moab, du Bachan, etc. On va rencontrer les ennemis. Et on va leur demander poliment, si vous voulez bien, est-ce qu'on pourrait passer par votre pays, hein? On va pas faire la rasière, parce qu'on va pas vous brûler les champs. On va pas voir votre eau, hein, c'est pas laquelle ils vont voir, mais enfin, on va le payer. Vous voyez, il faudra passer de nouveau par des difficultés occasionnées par les autres. Alors, chapitre de préparatifs sous la forme d'un recensement de l'infanterie du peuple en marche, de l'organisation du camp de cette marche, tout étant disposé autour de l'attente et de la rencontre de la présence divine aussi redoutable qu'indispensable. Comment elle va fonctionner, cette présence divine? Comme un vaisseau spatial. Il ne peut pas annuler. La nuée symbolise cette présence, à la fois extérieure et intérieure. Autour de cette tente, comme un tampon, un groupe qui n'est plus compté parmi les 12 tribus, les Lévites, les prêtres et les Lévites, voilà. Plus encore, plus rapproché encore, la garde des prêtres, Moïse, Aaron et ses fils, voilà, c'est tout ce que nous avons. On est constitué en peuple de Dieu, et maintenant on marche. Mais donc on va avoir des épreuves, c'est normal. Ce sont des épreuves qui vont vivre. De la mise en route, la structure du peuple se trouve mise à l'épreuve. Qu'est-ce qui est mis à l'épreuve? Tous et chacun, à commencer par Moïse et Aaron. Ils sont tous mis à l'épreuve. Moïse qui n'a plus la foi devant. Hein. On lui demande de parler au rocher. Et il donne un coup sur le rocher. Parce qu'on lui avait demandé. Et donc, grâce à ça, il ne va pas aller en terre promise. Sa grâce est de rester de ce côté-là. Moïse semble plus confiant dans la conduite divine. Hein? Est-il tenté de répéter les scènes du Sinaï, l'intervention bénéfique de Jéthro, son beau-père, parce qu'il y a le fils de Jéthro, repart, hein, il demande un petit peu, toi tu connais bien le désert, viens plus nous quitter. Vous voyez? Chaque fois, on oublie Dieu et on veut chercher de l'ersatz. Autre scène apparemment répétée, l'histoire de la manne déjà rencontrée, la scène de la manne, etc. Et aux deux requêtes, Dieu va répondre par deux leurres de déception. D'une part, ruach du Seigneur, souffle, apporte des cailles de la mer, nourriture dont Dieu donne la nausée. On l'a mis assez, c'est tout le temps la même chose. On n'avait pas de viande, maintenant on a de la viande, mais c'est tout le temps la même. Du poulet à tous les. Hein? Tous les pas. Ça va plus. Hey, les gens ne sont pas contents. D'autre part, la voix du Seigneur, le souffle, au sens d'esprit, reposant sur Moïse, prend possession des 70 anciens qui se mettent aussitôt à prophétiser. Oh, magnifique! Un mouvement extraordinaire. Et ça ne dure pas, ne persévère pas. La difficulté, c'est la persévérance dans notre vie. Au jour le jour. Deux phénomènes illusoires remet ainsi devant l'unique essentiel la parole de Dieu et Moïse, prophète, suspendu à cette parole. Mais pas facile à être suspendu à une parole qu'on n'a pas, qui va venir peut-être au moment où on en aura besoin. C'est nous qui mettons peut-être. Les plus proches, Aaron le prêtre et Mille de Myriam la prophétesse, n'ont apparemment pas compris. Est-ce donc à Moïse seul que Dieu a parlé? Non, on voudrait bien avoir un petit peu de ta puissance, nous, hein. Comprenez? Et le premier à rouspéter vraiment, ben c'est Myriam, la sœur, et Aaron, le frère. Chapitre 12, Myriam ainsi qu'Aaron parla contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait prise. Moi qui vais épouser une africaine, hein. On va quand même pas, hein. Il trouve à redire, ils sont de la famille. Et il dit, le Seigneur ne parlerait-il donc à Moïse? N'a-t-il pas parlé à nous aussi? Le Seigneur entendit. Oh, Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Et il reçoit tout ça. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, venez-vous, tous les trois, à la tente de réunion. Hein, on va faire une petite réunion. Ils allèrent tous trois, et le Seigneur descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, tous deux s'avancèrent, le Seigneur dit, écoutez donc bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il ne pas ses prophètes. Lui est à demeure dans ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Dans l'évidence. Non en énigme. Et il voit la forme du Seigneur. La très forte. Plus tu es humble, plus tu peux voir la forme du Seigneur. Il est au fond de toi quand tu es vide de toi. Pourquoi avez-vous osé fait parler contre mon serviteur Moïse, la colère du Seigneur s'enflamma contre eux, il partit, claque la porte. Et la nuée quitta la tente. Et voilà que Myriam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Aaron se tourna vers elle, elle était devenue lépreuse. C'est-à-dire que sa revendication brisait en elle la figure de Dieu. C'est ça la lèpre. On n'est plus l'image de Dieu. L'image même dans la peau. Hein. C'est la symbolique qui joue. Elle est devenue lépreuse. Elle va guérir, mais ni Aaron, ni Myriam, ni même Moïse ne traverseront avec le peuple. Ils resteront dans les steppes de Moab. Et cette traversée de Moïse va en trois blocs en quelque sorte, la traversée, pardon, la traversée du désert avec Moïse, hein, en trois blocs, depuis le Sinaï jusqu'à Kadesh, puis de Kadesh jusqu'à Moab, et puis on va se trouver dans les steppes de Moab. Les steppes de Moab, c'est juste devant Jéricho, à l'entrée de la terre promise, et ça nous mènera précisément à l'oreille du Deutéronome, qui va se passer tout entier, là. Donc voilà, cette mise en route, nous achèverons cette mise en route la fois prochaine, si vous bien, et puis, nous commencerons, parce que nous aurons la possibilité de le terminer la fois prochaine, mais nous commençons en tout cas la lecture du Deutéronome, enfin la lecture, je suppose que vous la faites, en fait rien de mieux, la lecture du livre du Deutéronome, moi je ne pourrais pas le parcourir en grande enjambée comme le reste.
L'examen, ma pose, quand on choisit un livre, on le situe dans l'ensemble, et puis on essaie de voir aussi, de parler de ce qui est ce qui nous apparaît comme l'essentiel dans ce livre. Nous étions en train de voir le passage du Lévitique au livre des Nombres. Nous avons à voir aujourd'hui, à reprendre un peu quelques éléments du livre des Nombres, et de passer au Deutéronome. Nous reviendrons après les vacances de Noël, nous avons encore deux cours, nous reviendrons à ce moment-là sur la finale du Deutéronome, et nous commençons à essayer d'entrevoir la théologie qui est présente dans tout l'ensemble du livre, du Pentateuque, des cinq livres de la Torah. Je ne saurais trop vous encourager à lire ou à relire chacun de ces livres en essayant de voir la trajectoire qui s'y déroule, ce n'est pas toujours si facile, voire elle ne se déploie pas d'une façon logique comme cela nous satisferait aujourd'hui, mais à travers les méandres de cette histoire, essayer d'écouter ce qui nous est dit de notre propre histoire et de l'histoire de notre Église, car c'est au fond de cela qu'il s'agit lorsque nous le lisons dans l'un et l'autre testament, en voyant comment l'Ancien et le Nouveau sont unis, et comme ce passage d'Ancien au Nouveau Testament, nous avons à le refaire chaque jour, comment Jésus lui-même nous invite et nous indique, nous invite à le refaire, ce passage, et nous indique comment le faire. Nous avons vu que le livre du Lévitique nous proposait une vie dont que l'on pourrait résumer simplement en ces termes, soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Qu'est-ce que c'est que la sainteté de Dieu? La sainteté de Dieu, c'est vraiment son unicité, sa transcendance. Et cette transcendance, c'est-à-dire ce dépassement de ce qu'est notre réalité humaine, mais qui plonge dans notre réalité humaine et lui donne sens, que ce dépassement, c'est vraiment le but de notre existence. Nous sommes appelés à devenir saints dans la sainteté de Dieu, à nous laisser remplir de cette sainteté. Et la sainteté a toujours un caractère de mise à part. Ce n'est pas être noyé dans la masse, mais c'est avoir un certain nombre de repères, et le premier repère que nous avons à avoir, c'est cette présence de Dieu qui raconte toute l'histoire du monde et qui la reprend dans son intimité. Et donc la sainteté qui nous est proposée dans ce livre, à travers bien sûr des pratiques, parce que nous vivons d'une manière pratique, tout à fait pragmatique dans notre existence humaine, à travers et à l'intérieur de cette vie, nous avons à vivre ce rapport qui nous est indiqué d'abord par les patriarches dans la première partie, et puis dans la seconde partie, depuis l'Exode jusqu'au Deutéronome, qui nous est indiqué par la présence de Moïse. De Moïse qui est tout à la fois un patriarche, enfin qui en joue le rôle, et un prophète. Un prophète, c'est ce que nous avons tous à être, c'est-à-dire à parler de la présence de Dieu qui nous habite. C'est ça le prophète. Parler avec notre parole, bien sûr, parler avec nos écrits, quand nous écrivons, même une lettre, parler à travers, surtout à travers notre existence. Et c'est de cela que parlait le Lévitique. Soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Et je suis saint au milieu de vous. Et donc cette sainteté va apparaître dans la manière dont vous allez me vivre à la manière de Dieu, au milieu de vos frères et de vos sœurs. Et donc, puisque tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même, tu es aimé par Dieu. Comme toi-même, tu voudrais que les autres t'aiment. Donc c'est une tâche absolument impossible qui nous est donnée là, dans le texte. Il nous est impossible, mais en même temps qui nous est donné. C'est l'impossible qui est le chemin. Et pour montrer que cet impossible est véritablement le chemin à vivre et qu'il dépasse toujours nos possibilités, il y avait au milieu du livre du Lévitique le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du pardon, de l'expiation. Nous reviendrons là-dessus lorsque nous ferons la synthèse de l'ensemble du Pentateuque, c'est-à-dire qu'il y a un chemin de pardon, que Dieu nous donne à vivre, qui est indiqué dans le Yom Kippour, au chapitre 16 du Lévitique, comme nous l'avons vu la fois passée, et qui nous donne une possibilité de vivre cette réalité utopique qui nous est donnée dans l'ensemble du livre du Lévitique, qui est la vie des prêtres lévitiques, des prêtres même de seconde zone, ceux qui ont été récupérés dans le temple après la chute de Samarie, de seconde zone, mais qui sont dans la tradition sacerdotale, dans la tradition d'Aaron, dans la tradition de sainteté. Et comme il y a un noyau sacerdotal dans le peuple sacerdotal, le peuple sacerdotal d'Israël est un noyau pour l'ensemble de l'humanité. C'est un petit peu la vision. Donc il y a moyen de vivre, c'est impossible, cette sainteté de Dieu dans la vie de tous les jours. Et c'est pour cela que nous avons, à la fin du Lévitique, nous avons tout ce qui touche la vie en communauté. Communauté du peuple saint. Bon, maintenant il va falloir vivre cela dans la réalité. Et la réalité apparaît comme très différente de cet idéal qui est placé là au centre du Pentateuque, au cœur, donc dans le Lévitique. Et c'est le livre des nombres, on l'appelle le livre des nombres,
parce que ce livre commence et se termine par un recensement. On dénombre le peuple. Et je vous ai parlé dans la fois passée, que là, il y a de nouveau une sorte de vision un peu utopique du camp, avec la tente sainte, et autour de la tente sainte, vous avez hein, le premier cercle des prêtres et des lévites, et puis le deuxième le cercle des tribus. Les tribus d'Israël, qui sont censées vivre de cette présence de Dieu dans la tente sainte. Mais en hébreu, ce livre des nombres s'appelle Bamidbar, dans le désert. Et donc, c'est à vivre dans un désert. Dans le désert, il y a, comme nous l'avons déjà vu un certain nombre de fois, il n'y a pas beaucoup de choses. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, hein, on peut vivre de la présence de Dieu, mais ce n'est pas tellement facile de vivre de la présence de Dieu car on ne le voit pas, lui. On ne le voit qu'à l'intérieur de la communauté, c'est-à-dire dans le frère, et on le voit souvent dans le frère qui est ennemi, ou celui qui est vraiment ennemi et qui n'est pas frère, tout autour. Donc le livre des nombres est un livre qui est rempli de tentations. Et comme nous ne sommes pas des gens parfaits, Israël ne l'était pas non plus, on succombe à la tentation. Et donc le livre des nombres va vous marquer un peu ce qui, à partir du chapitre 9, hein, que chapitre 9, chapitre 10, on se met en marche, on était déjà dans le désert depuis l'Exode, et nous avions le Sinaï qui commençait au chapitre 19, et on ne quitte le Sinaï que ici. Donc toute cette partie centrale est censée se dérouler en très peu de temps, un mois, au Sinaï. Et après ce mois de grande retraite, eh bien, on peut affronter les tentations. Et de fait, c'est un affrontement. Et c'est pourquoi dans le livre des Nombres, vous retrouvez beaucoup de choses qu'on avait déjà trouvées dans le livre de l'Exode, précisément à propos de ces tentations. On veut sans cesse retourner en Égypte, parce que la vie était plus facile là-bas. Il suffisait de laisser le soleil et l'eau travailler. Dans le désert, c'est beaucoup plus compliqué. Et on ne nous dit pas du tout, comment dans le désert, on pouvait s'approvisionner de toutes sortes de choses, on faisait des sacrifices pour 600 000 hommes, vous vous rendez compte, passer dans des 600 000 hommes, c'est pas possible, c'est tout à fait utopique si vous prenez ces chiffres de façon tout à fait précise. Donc il y a une expérience du Sinaï, au milieu d'un long cheminement. Cette expérience du Sinaï est une expérience de la présence de Dieu qui nous dépasse. Donc il est toujours au-delà de nos prises, au-delà de nos idéaux, aussi haut que nous les puissions les placer. Et alors, vous avez dans ce Sinaï une sorte de répétition, le don de la Torah qui était faite, du décalogue, mettons plutôt les 10 paroles, qui se faisait au Sinaï. Et juste après ça, nous l'avons vu, il y avait le veau d'or, c'est-à-dire l'apostasie du peuple. Et après les 10 paroles, et ici, nous avons la construction du sanctuaire. Là, c'était les plans qui étaient donnés, et ici, c'est la construction. Donc, il faut se faire un sanctuaire dans sa vie. Le sanctuaire, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et vivre autour de ce sanctuaire, comme nous l'avons vu, quand nous avions des sacrifices, nous avions le pur et l'impur, donc rester avec cette présence du Seigneur qui gouverne tout dans la vie, voir à travers le Yom Kippour comment le pardon nous est donné, et comment le vivre dans la réalité, avec toutes les les lois que vous trouvez hein, dans la finale, qui est comme une sorte de mélange de quantité de choses, une sorte de patchwork, mais qui nous donne quand même une perception de ce, en détail, de ce qu'est la vie de tous les jours. Quand on se met en route, eh bien, on va retrouver les difficultés, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'eau, la nourriture, nourriture et boisson, que l'on ne trouve pas comme cela, nourriture, que ce soit maintenant le pain ou les cailles ou la viande, et ça nous fait toujours désirer ce qu'on avait avant, toujours mieux ce qu'on avait avant. Et alors, on passe à travers aussi un veau d'or, mais à un moment très, très particulier. Ici, il y a ici un monsieur qui s'appelle Balaam. C'est quand on va passer maintenant dans le territoire déjà occupé, déjà, hein, où il y a déjà des gens qui vivent, sédentarisés, et on demande poliment si on peut passer à travers la région de Moab, à travers la région de Séir, puis alors ce sera le Bashan. On essaie de passer, ça c'est très important, à travers la vie des autres. On se trouve non plus tout seul dans le désert, on n'est plus en retraite, mais on se trouve au milieu du monde. Et c'est dans cette réalité du monde qu'il faut agir. Avec de toutes parts des ennemis, des tentations en tout cas. Il y a le fameux Balak, le roi de Moab, qui va chercher un homme remarquable, un prophète, païen bien entendu. Il va chercher pour maudire Israël, il veut passer par là. Il dit, nous avons notre eau et nous avons nos provisions nous-mêmes, hein, nous ne ferons pas de tort à vos moissons et à vos puits. Et on va chercher ce monsieur Balaam, il y a une ânesse qui est beaucoup plus intelligente que lui, parce que son ânesse hein, voit l'ange du Seigneur, alors que lui-même ne le voit pas. Mais il reçoit de temps en temps des illuminations. Et cet homme, Balaam, qui est appelé par le roi Balak pour maudire Israël, lui dit, moi, je ne m'engage à rien. Je m'engage seulement à dire ce que, curieusement, le Seigneur, mais le Seigneur d'Israël, il l'appelle toujours, hein, Yahvé comme les autres, ce qu'il me dira de dire, je ne dirai pas autre chose. Balak est souvent ennuyé par cela, parce qu'au lieu de maudire Israël, il le bénit. Bénédiction, malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire, bénédiction, malédiction? Bénédiction et malédiction, nous allons le voir, parce que ça va être repris dans le Deutéronome, cela signifie la mise en liberté de quelqu'un. Je suis maître de ma vie, qu'elle soit bénie ou qu'elle soit maudite. C'est moi qui ai béni et qui maudit. Hein. Si je la reconnais comme venant de Dieu, et si je vis cette présence de Dieu, ma vie est bénie. Je bénis Dieu qui en est la source, et il me bénit en me donnant la vie, et une vie prospère et agréable, même s'il y a beaucoup de problèmes. Elle est prospère et agréable parce qu'elle est unie à Dieu. Tandis que la malédiction, c'est aussi moi qui maudis. C'est déjà donné avec Abraham, bénis ceux qui te béniront, et maudis, bénis soit ceux qui te béniront, et bénis et maudis soit ceux qui te maudiront, maudiront. Ce qui veut dire, vous êtes libre du succès, c'est-à-dire du succès intérieur de votre existence. Vous en êtes libre. C'est vous qui la gérez. Et donc Balaam, qui vient, et qui. Bénit Israël. Il bénit Israël parce que ce prêtre païen, ce prophète païen, il bénit Israël parce qu'il a découvert que ce peuple d'Israël avait quelque chose de précieux, qui est cette présence de Dieu, mais une présence de Dieu, non pas qui est déjà là, mais qui est en train d'être là, qui se donnera. Et je vous lis quand même, après l'épisode, épisode de l'ânesse de Balaam, qui voit toujours l'ange de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu dans son peuple. Donc c'est au chapitre 22 à 24, on ne sait pas du tout d'où viennent ces textes. On a retrouvé quelques traces, bien sûr, mais c'est un texte qui a été inséré, enchâssé en quelque sorte dans l'histoire. Pourquoi? Parce que ce Balaam est un petit peu comme un petit Moïse. Mais un Moïse à l'usage des nations. Un Moïse qui n'est pas, catholique, qui n'est pas Israël. Il y a d'ailleurs, et ils ont aussi quelque chose à nous dire, les nations portent aussi une présence de Dieu. Et souvent, ils sont beaucoup plus sages que nous. Et surtout, ils nous révèlent nos faux pas. C'est une grâce qu'ils nous font, évidemment. Et voilà les oracles de Balaam. Je vous cite quelques passages entre le chapitre 22 et le chapitre 24. C'est là qu'il fonctionne. Dieu vint à la rencontre de Philo, chapitre 23, au verset 4. Or Dieu vint à la rencontre de Balaam qui lui dit, j'ai disposé les sept autels, j'ai offert en holocauste un taureau et un bélier sur chaque autel. Bon, il avait donné comme consigne de fabriquer un sacrifice, de fabriquer cet autel et d'offrir sur cet autel un taureau en holocauste et un bélier. Taureau et bélier. Sacrifice pour le péché et sacrifice de participation, de communion. Balak me fait venir, donc il prononça son oral, son poème, dans le territoire de Moab.